Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1144, en ce samedi 2 avril 2002. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui, un Sweet Home Chicago spécial, un Sweet Home Chicago particulier. Pas de rubrique Beatles, pas de rubrique Rock Ears, pas d'invité au téléphone, mais du live et surtout, pas de disque du mois non plus, voilà. Et surtout, une carte blanche à Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panucco. Jean-Christophe, Laurent. Salut les amis, comment ça va?
Salut Marc, salut tout le monde.
Salut.
Très heureux de vous retrouver parce que la dernière fois c'était un rendez-vous un petit peu manqué, cause Covid, c'était en février, mais ça c'est du passé.
C'est du passé.
Et donc on avait déjà fait en 2021 deux tomes, je crois que le premier c'était en juin, le deuxième à l'automne, je ne sais plus exactement.
C'est
et
possible.
On avait prévu, on avait déjà B203, un tome 3. Et donc le début février, ça a été la réédition du tome 1 parce que voilà, pas d'émission ce jour-là. Mais là, on est en live, on est en direct live, on est le 2 avril. Moi, j'incite les gens qui écoutent l'émission à également nous rejoindre sur le Facebook Sweet Home Chicago pour aller nous faire un petit coucou, pour féliciter les invités et engueuler l'animateur. Et vous pourrez dire tout ce que vous voulez sur la programmation. Alors aujourd'hui, spécial carte blanche avec vos coups de cœur. Et on va revenir quelques années en arrière pour quasiment toute la playlist, j'ai envie de dire.
Oui, bon, on a fait comme d'habitude, on n'a pas trop réfléchi. On a choisi un titre, puis deux titres, et puis il y a eu un genre de thématique autour des choses un peu blues, rock européenne, américaine, des choses qu'on... On avait fait une setlist très très folk les fois précédentes.
Ouais, folk rock,
country. Et là, on est plutôt sur du blues rock.
Sur du blues,
blues anglais, ouais. Voilà.
Ouais. Et on est reparti sur une majorité d'Américains, mais quand même énormément, tu l'as dit, d'anglais. On aura de l'écossais, on aura de l'irlandais, du gallois.
Ah oui, complètement.
On parle.
Du français.
Du français. Un titre en français, effectivement. Mais quel français, évidemment. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est dégrainer toutes ces plages, tous ces disques, tous ces artistes. Peut-être commencer par toi, Laurent.
Ouais.
Tu as choisi un album mythique par un groupe mythique. Allez.
Et que j'avais déjà choisi d'ailleurs sur une de tes demandes qui passera, je sais pas quand.
Très bientôt, je crois le 16 avril.
Ouais. Voilà. Donc en fait j'ai choisi Led Zepp parce que ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles je me suis branché très très vite quand j'étais tout jeune, il y a de ça fort longtemps. Et j'ai choisi un titre, c'est pas forcément le plus connu, mais bon de toute façon tout est bon dans cet album-là, c'est le deuxième album de Led Zepp. Qui s'intitule Sobrement 2.
Ça me rappelle un groupe qui s'appelait Westbound, je sais pas si tu connais ça.
Ouais. J'allais le dire, j'aurais pas osé en fait, mais c'est toi qui le dis, donc voilà. Et c'est vraiment. Alors j'ai choisi un titre qui s'appelle Heartbreaker.
Heartbreaker, c'est ça.
Parce que le riff est monumental, mais que de toute façon, tous les riffs de Jimmy Doyle sont monumentaux. Donc, et c'est une musique, je trouve. Qui n'a pas trop vieilli, que j'écoute vraiment tout le temps.
Pourtant, c'est un truc qui a été enregistré il y a un peu plus de 50 ans.
Ben oui.
Et les jeunes pourraient se dire, mais attends les gars, vous écoutez des machins qui ont un demi-siècle, c'est bon à remiser au placard. Mais pas du tout, parce que figure-toi que maintenant les jeunes, quand je dis les jeunes, c'est ceux qui ont 20 ans et un tout petit peu
donc
plus,
les jeunes.
Un petit peu moins. Ouais, les jeunes, on est d'accord. Les vrais jeunes, hein, pas les cadras. Ils reviennent à ces trucs-là. On revient aux valeurs, on revient au vinyle. Et puis je pense que la playlist là, que vous avez préparée, les amis, Jean-Christophe, Laurent, c'est des choses qui vont plaire à toutes les oreilles, peut-être même trois générations d'auditeurs.
J'espère.
Oui, et puis tu vois, moi j'ai un fils qui va prendre 33 ans, qui est branché musique, qui est musicien aussi, mais qui en effet me dit la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'il est capable de dire, ça a quand même pris un bon coup de vieux, y compris dans le rock, il y a des choses qu'on pas forcément très bien vieilli, mais des choses comme ces groupes-là qui sont des groupes mythiques.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il fut une époque où le rock et notamment l'époque punk voulait chasser un peu tous ces dinosaures-là. Bon, parce que on pouvait entendre. Il n'empêche que entre le premier Sex Pistols et le deuxième de Led Zepp, mon choix est fait.
écoute Laurent, on va écouter ça tout de suite. C'est extrait de l'album 2, tu l'as dit, Heartbreaker. On se retrouve juste derrière. Et bienvenue à tous les auditeurs qui viennent d'arriver. Voici Led Zeppelin dans Sweet Home Chicago.
Hey, fellas, have you-
Led Zeppelin dans la radio, Led Zeppelin sur le triple 6.
Ça pulse hein, quand même, je ne dois pas dire, mais ça envoie sa maman.
Hein. Oui, parce que c'est j'ai parlé des riffs de Jimmy Page, mais je n'ai pas parlé de la voix de Robert Plant.
Mais non, mais
ni de la batterie de John Bonham et de la
base de John Paul Jones, quand même. Hein,
ouais. Effectivement, et puis tout ça s'est arrêté bizarrement en 1980 à la disparition de John Bonham. Bon, il y a eu des trucs après, hein, quand même. Il faut reconnaître que même que tous les deux, on va dire que, quand je dis que, Robert et Jimmy, ils ont fait de belles choses.
Oui, ils restent eux-mêmes.
Et puis la carrière de Robert Plant n'est pas terminée. Voilà,
absolument.
Ils ont fait des belles choses.
Il sait se réinventer, il sait faire plein de choses.
Alors, Led Zeppelin, on reste sur cette période 1968-1980 et tout le meilleur est à prendre dans cette époque-là. L'album 2, Laurent, c'est 1969-70
oui, 69.
Oui,
c'est l'année où ils en ont fait deux.
C'est ça, le 1 et le 2.
Voilà.
Eh bien, merci Laurent.
Les mecs, ils sortent deux albums dans la même année. Quoi. Et quels albums?
Et en plus, après, il y a eu le 3 et le 4, et ensuite, aussi Six of the Only, etc.
Voilà. Sachant qu'en 67-68, ils étaient encore sur les Yardbirds et sur les projets les plus avancés des Yardbirds. Hein, c'est quand même... C'est quand même fantastique.
Et ils avaient un cahier de brouillon, c'était de faire le répertoire de Led Zeppelin. Voilà, l'un des meilleurs groupes du monde. Alors, on va partir en Irlande, Jean-Christophe.
Oui, alors d'abord, avant de partir en Irlande, je voudrais signaler la présence dans le studio de mon fils qui n'a pas 33 ans, qui a 11 ans.
Oui.
Donc, qui s'appelle Oscar.
Salut Oscar.
Voilà, qui vient souvent, un habitué. Et puis, on voudrait lui donner un peu la parole parce que il doit passer un petit bonjour à quelqu'un.
Hein. Allons-y. Oscar, bienvenue à la radio.
Bah, merci. Je voudrais dire bonjour à ma maîtresse qui m'écoute, je crois.
Comment s'appelle-t-elle?
Isabelle.
Alors bonjour Isabelle, de la part d'Oscar, puis de la part de tout le monde dans le studio. Voilà.
Elle est gentille, la maîtresse?
Oui, oui.
Bon, deuxième question, avant que je me prenne pour Jacques Martin.
Oui, parce que... C'est marrant, ça me rappelait quelque chose.
Super. Oscar, je suis très content de te voir ici, à nouveau, parce que c'est pas la première fois, effectivement. Et puis, on va rappeler quand même que ton papa et Laurent, les deux amis que tu vois à côté de toi, se sont rencontrés pour la toute première fois, ici même, l'année de ta naissance, c'est-à-dire... en fait, tu es né, Oscar, exactement 100 ans après Robert Johnson, parce que... En 2011, on avait fait une émission spéciale Robert Johnson. C'est à cette occasion que Laurent et Jean-Christophe se sont rencontrés pour la première fois. Et toi, tu étais un tout petit bébé. On s'en souvient, Oscar.
Voilà.
Et maintenant, à 11 ans, voilà.
Il est déjà venu dans le studio alors qu'il était un tout petit bébé. Oui. Et ça, il s'en souvient pas. Oui. On a des photos où il est très petit ici. Ouais. Alors, Oscar, il est né 100 ans après Robert Johnson et le même jour que Dick Rivers. Bon, on va voir ce que ça donne.
Voilà.
Alors,
Marc, t'as oublié une question, c'est de dire il est où ton papa?
Il est où ton papa?
À côté de moi.
À la meilleure place.
Bonne réponse. Hein.
Alors tout à l'heure, on aura l'occasion d'aller en Irlande du Nord, mais là, c'est l'Irlande, hein, l'air, avec un garçon qui nous a malheureusement quitté, je crois, au milieu des années 90, et au fait de sa gloire, un garçon qui a brûlé la vie par tous les bouts, en 95, tu l'as dit, c'est monsieur Rory Gallagher.
Ouais, Rory Gallagher, qui est un artiste magnifique. Alors ça fait partie des choses qui nous ont réunis avec Laurent, parce que Laurent, déjà, aime beaucoup Rory Gallagher comme moi. Il a eu la chance de le voir dans notre ville natale de Thionville, ou pas très très loin, quand il avait 14 ans. Voilà, je lui en veux beaucoup pour ça, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de voir Rory. Il est mort quand j'avais 16-17 ans, j'ai pas eu tellement l'occasion de le faire. En revanche, ça fait partie... Alors, j'ai pris, moi, à une époque, quelques cours de guitare, avec un monsieur qui était génial et qui est toujours génial, qui vit dans le sud de la France maintenant. Et c'est vrai que c'était des cours un tout petit peu atypiques, parce qu'en réalité, on jouait, mais on parlait surtout. Enfin, il m'a montré quelques accords, mais surtout on discutait. Et la plus belle chose qu'il ait fait, c'est qu'il m'a fait découvrir Rory Gallagher. Il m'a donné sur une cassette Live in Europe et Stage Struck, je me souviens à l'époque. Et c'est vrai qu'après, bon, j'ai approfondi et j'ai écouté Rory pendant des années. Et c'est un artiste magnifique, magnifique parce que... pas simplement un artiste de blues rock, mais un artiste qui mélangeait une vraie passion pour le blues, une vraie passion pour le rock, avec un vrai vocabulaire irlandais, celtique. C'était un chanteur magnifique, c'était un guitariste magnifique, c'était un compositeur magnifique. Donc, je suis en admiration béate devant Rory Gallagher depuis toujours.
Et si je peux rajouter, c'était un performeur magnifique.
Ah oui, j'ai pas eu l'occasion de voir ça.
Voilà, moi j'ai eu la chance de le voir sur la tournée Live in Europe et sur la tournée.
D'Irish
Tour, voilà, merci.
D'Irish Tour en 74.
Ouais, je l'ai vu en 73, en 74, deux années de suite. Et enfin, ou 72, 74, j'ai pu. Mais voilà, au début, je commençais à écouter du rock. Donc là, moi, j'avais pris une très, 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 très grosse claque. Quoi.
Bien sûr.
Et c'était un type. Je me rappelle sur un de ces deux concerts que j'ai pu voir à Metz, dans le Palais des Sports, c'est que il venait en rappel. Il revenait tellement qu'à un moment, il était 2h du mat et ils ont coupé le son. Ils ont coupé l'électricité en plein milieu d'un morceau. Mais c'était, je sais plus, son troisième, quatrième rappel. Et comme il y avait eu d'autres groupes avant, il nous a regardé d'un air désolé. Il a dit, bon, faut quand même que j'y aille. Et c'est vraiment un mec qui donnait tout, quoi, sur scène.
Ouais.
Qui vivait pour la musique, quoi.
L'album que tu as choisi, Jean-Christophe, c'est pas forcément l'album emblématique de Rory Gallagher. C'est même un de ses albums à l'époque, fin des années 70, plutôt controversé par les vrais amateurs, entre guillemets, de rock bien bourrin, bien connu.
Il nous casse les couilles, les puristes. Ils ont toujours cassé les couilles.
Mais en fait, il date de 78.
Je
viens de comprendre pourquoi tu l'as choisi.
Il date de 78. Et c'est quand même l'album sur lequel il y avait son grand standard Shadowplay, qui est vraiment au répertoire de tous les amateurs de blues rock. C'est le... c'est un album avec un son un peu crachou. Alors certains disent qu'il commençait à virer un peu heavy metal à l'époque. Bon, je suis pas tellement convaincu, le son est un petit peu plus crade, mais j'ai choisi un morceau, moi, qui est pas un des morceaux les plus connus de Rory, mais qui est un morceau qui, je trouve, le révèle bien, qui est très très bien écrit, avec un très beau texte et une très belle musique et un solo de guitare chantant magnifique. Un morceau qui s'appelle Overnight Bag, qui est un morceau qu'il a joué, alors je le tiens, Jerry McAvoy, avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler quelques minutes,
qui était le bassiste
qui joue dans 9 Below Zero, qui était son fidèle bassiste à l'époque. Il disait qu'il l'avait joué une fois sur scène, une seule fois à Berlin, enfin je sais plus où. Et moi, ça a toujours été un de mes titres préférés de Rory, ce qui montre à quel point c'était un grand guitariste, un grand compositeur, et qui montre qu'il avait beaucoup plus à son arc que les groupes de blues rock de l'époque, quoi. On trouve peut-être des petites effluves qu'on retrouvera plus tard chez Mark Knopfler, on retrouve des choses comme ça.
D'accord, voilà. On écoute ça, Overnight Bag par Rory Gallagher. quel plaisir de retrouver notre formidable Rory Gallagher en chair et en os ou quasiment.
Est-ce que t'as vu ce solo de guitare qui chante que oui. tu peux chanter enfin, c'est, voilà, c'est pas son titre le plus blues, mais par contre, qu'est-ce que ça joue, qu'est-ce que c'est bien écrit.
Tu connais l'histoire, Marco, la question posée à Hendrix. qu'est-ce que ça fait d'être le meilleur guitariste du monde? Et il a répondu, je sais pas, demander à Rory.
Effectivement. Ah oui, mais ça me rappelle aussi une autre anecdote avec notre ami Rob McCulloch qui nous a quittés il y a pas très longtemps et qui, vers 18 ans, se retrouve dans son lit, comme tous les matins, genre 6h du matin, et sa mère qui arrive, qui déboule et qui voit une longue chevelure à côté de celle de son fiston, lui dit, je t'avais dit de pas ramener des filles à la maison. Et en fait, c'était Rory qui dormait avec lui parce qu'ils étaient red def de la veille, quoi. Terrible. Et donc on en arrive à un autre univers.
Ah oui.
On n'est plus en Irlande, on retraverse les États-Unis. On va y aller de temps en temps parce qu'il n'y a pas que des Anglais et des Irlandais dans cette programmation que vous avez sélectionnée. Mais il y a également des Américains et des authentiques bluesmen, dont un certain Kevin Moore.
Oui, Kemmo.
Alors Kemmo, pourquoi Kemmo? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette programmation? C'est un véritable coup de cœur.
Alors moi, c'est quelqu'un, quand je l'ai découvert, je ne saurais pas dire quand je l'ai découvert.
Dans les années 90, non? Comme tout le monde, non?
Ouais, peut-être un poil plus tard. Quand est-ce qu'il est passé à la Nuit du Blues, tu te rappelles?
Alors, il n'est pas passé à la Nuit du Blues, il est passé à Coutances, vers 97 ou 16.
Ouais.
Le même soir que Coco Taylor.
Ah oui, c'était à Coutances.
Voilà, c'était à Coutances.
Il n'est pas passé au Zénith, non.
Je ne crois pas.
D'accord, bon, je ne sais plus.
Bon, je me trompe peut-être, hein. Si Jacques Picard nous écoute, il va tout de suite nous téléphoner.
Mais je me demande si... Je ne sais plus. En tout cas, toujours est-il que je ne connaissais pas, je te passais totalement à côté de ce monsieur-là.
Mais il vient de rentrer dans le studio, écoute.
Oui, c'est ça, ouais. Je t'entends. Là.
Angelina, baby, don't you have to go.
Jean-Christophe,
c'est sympa comme cadeau. Et donc j'étais passé totalement à côté de ce monsieur-là. Je me rappelle, j'avais une copine qui était allée le voir. Il jouait, il était en solo.
Pourtant, il fait 1m90, ça.
Hein, oui, mais bon. Et elle m'a passé le disque. Et là, je me dis, ah oui, quand même, il y a matière. Bon, en plus, c'est un secret pour personne. Enfin, en tout cas, pour ceux qui me connaissent, tout ce qui est acoustique, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours aimé le mélange acoustique-électrique. Et c'est marrant parce que, oui, on parle de blues quand on parle de Kemmo, mais moi je l'entends pas comme un bluesman pur. C'est-à-dire que je l'entends comme un chanteur américain, comme de la vraie chanson américaine, parce qu'il y a des chansons américaines dans ce qu'il fait. C'est toujours très léché, hein, c'est très propre, hein, c'est pas du tout du blues-crate. C'est un excellent guitariste acoustique. Ça va être aussi un bon guitariste électrique, très inspiré quand il fait des solos. Et j'aime à peu près tous ses disques, un ou deux qui me plaisent un peu moins, mais c'est toujours très très bon. J'ai eu la chance de le voir il y a 10 ans à Cahors.
On était ensemble.
Donc du coup, pour fêter ça, je retourne à Cahors cette année.
Très bien. Et tout ça sous le contrôle de Dan Zirotti de Moonshine Blues, qui est une fan absolue et incontournable de Kemmo, hein, on est bien d'accord.
Et j'ai choisi ce morceau parce que il est pareil, il est un peu particulier, il a une espèce de groove un peu presque salsa avec John Cleary au piano, avec des choses très très étonnantes. Et puis voilà quoi, c'est un super titre.
Et alors moi c'est vrai que ce titre-là que j'aime beaucoup également, j'avais essayé de convaincre Laurent, mais je dis ça c'est un titre que vous devriez reprendre avec les Band Guys.
Ah, oui. Ouais.
Bon mais bon comme d'habitude on m'écoute pas. Hein.
Si ça peut te rassurer, on va pas écouter non plus.
on va essayer d'imaginer là. Version Barn Guys, ce titre de Kemmo. Kemmo, ça s'appelle The Itch.
Heavenly Father, up above, have mercy on me. After 7 years of bad love, I finally got free. I don't mean to seem ungrateful. You answered my prayer. And Father, if you're able, don't let me do the same damn thing all over again. You get the fever, you get the itch, and you forget about the mess you were in. You forget about the money, the
lawyers and the pain, and do the same damn thing all over again. Almighty Father, great and good, you need to be in my shoes. Let me fall in love just like before. Now I'm stepping in a big pile of blues. But now the honeymoon is over. Let's not pretend. I guess I never learned my lesson. I did the same damn thing all over again. About the mess you are in, you forget about the money, the lawyers and the pain, and do the same damn thing all over again. Yes, oh yes. He had troubles just like mine, and he's the chosen one. So if I ever go to heaven, will that be the end? Or will I fall for some sweet little angel and do the same? About the money, the lawyers and the pain, and do the same damn thing all over, you get the fever, you get the itch, you forget about the mess you were in, forget about the money, the lawyers and the pain, and do the same damn thing.
C'est ce que tu disais, Laurent, ces sonorités salsa qui arrivent sur ce morceau.
Amérique latine, ouais, 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 ouais.
Très, très bien. Voilà. Ça rappelle un petit peu Santana. Alors, tu parlais du Cahors Blues Festival, à propos de Camo, là où tu l'as eu il y a 10 ans.
Bon appétit, Marco.
Eh bien, je t'en prie, tout va bien. J'essayais que ça ne se voit pas, mais c'est impossible.
Non, mais ça ne se voit pas, mais ça s'entend.
Effectivement. Et donc... Il est très bon le saucisson. Et donc,
tiens, je vais en prendre.
Puisqu'on est sur le Cahors Blues Festival, il y a un artiste qui a effectué son tout dernier concert à Cahors, justement, c'était en 2014. Et c'est un artiste que tu nous présentes, Jean-Christophe.
Alors que je vous présente, il n'a pas besoin d'être présenté, c'est Johnny Winter. Mmh. Alors Johnny Winter, je pense que... Moi j'ai fait partie de ces... Alors c'était peut-être décalé dans le temps, mais j'ai fait partie de ces ados qui ont appris à jouer de la guitare électrique en écoutant les disques de Johnny Winter et en étant navré du travail à accomplir. Mais enfin bon, voilà. Et j'adorais Johnny Winter quand j'étais ado. J'ai toujours beaucoup aimé ses disques. J'ai la particularité, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, d'avoir une petite théorie... de dire qu'il était quand même beaucoup plus intéressant quand il faisait autre chose que du blues, mais non, alors quand il fait du blues, ses disques de blues sont très intéressants, très sympas, chez Alligator.
Oui, les trois Alligator.
Voilà, c'est sympa, mais j'adorais ces disques du début des années 70 où il avait avec lui Rick Derringer et il y avait des belles chansons et il chantait bien et c'était mélodique et tout ça. Donc la chanson que je voudrais présenter, c'est une chanson qui est sur l'album Johnny Winter End, de 1970, je crois, quelque chose comme ça, peut-être.
Je crois que c'est 71.
71. voilà. Et c'est une chanson de Rick Derringer qui s'appelle Let the Music Play.
70,
que j'ai joué longtemps, moi, ouais, sur scène avec mon tout premier groupe. Donc j'ai beaucoup de souvenirs avec cette chanson. Et c'est une chanson magnifique et méconnue. Donc voilà. J'espère que.
Let the Music Play, monsieur Johnny Winter. Merci, Jean-Christophe. Voilà, c'est bon jusqu'à la dernière goutte.
Alors ?
Effectivement, 1970, on est d'accord, Johnny Winter, un de mes morceaux préférés de cette époque, précisément.
Ah bah, je suis ravi qu'on partage ce goût-là. Ouais. Cet album est extra, il y a Rock'n'Roll Chico dessus, il y a la reprise de No Time to Live de Traffic qui est très très bien aussi.
Voilà, Johnny Winter, on est en 1970 et on va rester dans les années 70-72, voilà les tubes ou les facées des groupes qu'on préfère.
Comment ça, les facées?
Ouais, oui, il y a beaucoup.
Qu'est-ce qu'elle te dit, la facée?
Il y a des facées, si, il y a des facées. Et bien, bon, voilà, on est pas là pour dire on va faire un best-of, c'est pas du tout l'objectif. C'est les coups de cœur de Laurent Choubrac et Jean-Christophe Panico aujourd'hui dans Sweet Home Chicago avec un groupe qui ne passe jamais dans l'émission. Grâce à toi, Laurent, ça va être chose réparée.
Ouais, donc c'est le J-Guides Band. Que j'ai découvert par ce disque-là. Juste l'anecdote, j'étais chez le disquaire, j'avais le casque sur les oreilles, j'étais jeune ado. Et
15 ans, c'est ça?
Ouais, je sais pas. Quelle année là?
72.
Eh ben, oui, 15 ans. Voilà. Et donc un copain passe et vient me causer, et je lui dis, là je peux pas te parler parce que je suis trop occupé à écouter ce truc-là. Et bon, moi je devais avoir l'argent pour acheter le vinyle à l'époque, j'avais pas trop de fric, et j'achetais pas tant de disques que ça, et j'ai donc gardé le vinyle. Et le J-Guys m'a vraiment bluffé tout de suite sur ce live parce que c'est de la dynamite, quoi.
Ouais.
C'est vraiment de la dynamite. Et après, en allant chercher, ben, je me suis aperçu que c'est des gens qui m'ont aussi emmené chez des gens comme Albert Collins, parce qu'ils reprenaient du Albert Collins sur leurs deux premiers albums, ce qui n'était pas courant du tout à l'époque.
Albert Collins, qui n'était pas connu, parce qu'il n'avait pas encore fait d'album chez Alligator, il était juste chez Imperial Records, et de ce côté-ci de l'Atlantique, on n'en entendait jamais parler.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'était très étonnant, parce que c'est un groupe de la côte Est, le J-Gals, qui est très branché rock, qui faisait vraiment, enfin qui était connu pour avoir des grandes concerts live énormes, et ils reprenaient ça. Et puis bon, bah, après ils sont partis sur un côté un peu plus FM, ils ont pour avoir un peu plus de succès. Tout n'est pas mauvais d'ailleurs, j'aime pas tout. Bon, ils ont fait des gros tubes comme Centerfold, comme Lost Things, etc. Et ce live là, j'ai choisi un morceau du blues en fait, parce que c'est Homework. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est Otis Rush qui a écrit.
Oui, c'est Otis Rush,
c'est ça, je dis pas de bêtises. Et c'est pareil, c'est vraiment
Anymore,
que j'ai joué d'ailleurs avec Absalom, c'est un morceau que j'ai joué. Et en fait, c'est pareil, ben voilà, ça m'a amené au blues, ces trucs-là. Ouais. Donc ben on s'écoute ça.
On s'écoute ça. J-Gals Band, Homework. Vous êtes confortablement installé dans le 1144e épisode de Sweet Home Chicago. Nous sommes en 1972 et tout va bien. Merci Laurent pour ce voyage en live.
Tout le plaisir est pour moi.
The J-Gals Band. Un morceau court, hein, les deux derniers morceaux étaient très très courts. Le prochain va l'être également. Et c'est Jean-Christophe qui s'y colle. Alors, un de tes artistes préférés. Enfin, moi je t'entends toujours.
Ah oui, c'est vrai. C'est rigolo. Hein. C'est bien que tu l'aies remarqué.
Mais quand même.
Ouais, c'est un de mes artistes fétiches. C'est un des artistes qui m'a marqué parce que je l'aime en tant que chanteur, en tant qu'auteur-compositeur, en tant que musicien. J'aime ce qu'il a fait, j'aime ses collaborations. C'est Léon Russell,
ouais,
qui est mort il y a 7-8 ans, 6-7 ans.
Il n'y a pas si longtemps que ça.
2014, je crois.
En même temps que J.J. Cale, à peu près.
Oui, ouais, c'est pas très longtemps après. Et Léon Russell, voilà, je l'ai découvert par hasard. J'avais un best-of de B.B. King, comme plein de jeunes. Et il y avait une chanson magnifique qui s'appelait Hummingbird, signée par Léon Russell. Donc j'ai vu la signature. Après, j'ai découvert Joe Cocker. Et découvrant Joe Cocker, j'ai découvert Mad Dogs Englishmen et j'ai écouté le piano, le Delta Lady de Léon Russell, la guitare de Léon Russell. Et après, je me suis intéressé vraiment à ses productions à lui. Et voilà, c'est une discographie très très riche avec des chansons magnifiques. C'est un pianiste extraordinaire. C'est un chanteur avec un style assez original, mais moi que j'aime beaucoup. Et puis, c'est toute une galaxie musicale parce qu'autour d'Elon Russell, il y avait J.J. Kell, il venait de Tulsa ensemble.
Oui.
Il y avait Carl Riddle, il y avait Derek and the Dominos, il y avait Dylan Bunny, il y avait toute cette équipe-là.
J'ai revu tout récemment un concert où il y avait tout ce monde-là. C'était en 79, je crois que j'avais dû le partager sur les réseaux.
Avec J.J. Kell, Léon Russell.
Voilà.
Et tu as aussi le concert pour le Bangladesh de George Harrison,
oui.
Où Léon Russell est également là. Ouais. Il chante Jumpin' Jack Flash, il tient la basse quand George Harrison chante avec Dylan. Il a produit Dylan avec Watching the River Flow. Enfin, c'était vraiment une force musicale créatrice extrêmement forte au début des années 70. Et c'est toujours resté un artiste intéressant. Alors c'est vrai que à la fin de sa vie, il produisait ses disques tout seul. Alors, il a eu un disque en duo avec Elton John qui l'a un peu, qui lui a un peu permis de remonter un peu la pente. Mais il a écrit des chansons magnifiques, Song for You, voilà, qu'on connaît par Donny Hathaway, Delta Lady par Joe Cocker,
il y a un album Mascarade
par George Benson. Enfin, c'est splendide.
Il y a un album qui est sorti l'an dernier, les chansons de Léon Russell. T'as dû te procurer ça, j'imagine.
Ouais, peut-être.
Avec des trucs complètement improbables. Enfin, voilà, pas seulement des collaborations, mais surtout des morceaux qu'il a créés.
Au-delà de tout ça, ce qui est drôle, c'est que ses collaborations avec J.J. Kell, avec Eric Clapton, avec Bob Dylan, avec George Harrison, avec Joe Cocker, c'est arrivé, c'était déjà sa deuxième carrière. Sa première carrière, c'est qu'il était musicien du fameux Wrecking Crew, c'est-à-dire l'équipe des requins d'Hollywood, avec Glenn Campbell, avec James Burton, avec Reggie Young, avec Carole Kay, qui jouait sur les
Carole Kay.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Alors moi, j'ai connu Léon Russell avec Freddie King, que tu n'as pas cité. Parce que chez Shelter, quand même, c'était
exactement.
C'était après sa période atlantique, là encore.
Bah, Shelter, c'est la maison de disques qui a été fondée conjointement par Léon Russell et par Denis Cordell, qui était le producteur de Procolar Room. Et ils ont produit notamment Freddie King, et ils ont joué avec Freddie King. Ouais.
Et puis ce fabuleux album posthume de Freddie King qui s'appelle tout simplement 1934-1976, dans lequel intervient également un certain Eric Clapton.
Exactement.
Voilà. On va écouter Léon Russell. Qu'est-ce que tu as choisi?
J'ai choisi une chanson que j'adore qui s'appelle Crystal Closet Queen, où on trouve un peu tout Léon Russell. C'est-à-dire qu'un super piano gospel, des chœurs de tous les côtés, parce que c'est lui qui a porté les chœurs dans Mad Dogs Englishmen. Et c'est la reine de la pièce de cristal, etc. C'est un hommage à la reine du rock'n'roll, d'après lui.
Ouais.
Et la reine du rock'n'roll, c'est Little Richard. Donc ouais. Voilà.
Voilà, c'est Jean-Christophe Manico qui nous présentait cet album de Léon Russell. Et moi, ce que j'aime bien dans ces émissions best-of, en fait, on va dire, c'est la variété des styles. Pas forcément la variété des époques, d'ailleurs, mais c'est pas grave, parce que, je veux dire, il y a 50 ans, on faisait des choses merveilleuses. C'est pas... l'émission, on est d'accord, hein, c'est pas... on écoute ce qu'on écoutait il y a 50 ans, d'ailleurs, Jean-Christophe, c'est impossible.
Non.
Mais, bah, finalement, on se replonge dans les vieux pots, la bonne soupe, avec des choses comme ça. Et là, on va revenir à un artiste absolument incontournable, Laurent.
Ouais.
Quelqu'un qui n'est, on va dire, nié par personne, beaucoup s'en réclament. Enfin, je parle des musiciens, bien sûr, mais il y a également pas mal d'artistes. Je reviens aux jeunes, les jeunes qui connaissent ce nom, forcément.
Alors, je me suis rendu compte que sur ma sélection, c'est le seul que j'ai pas vu sur scène, et pour cause, il était mort avant que je le découvre. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu ça, je faisais de la musique avec un voisin qui habitait la maison à côté de la mienne, et je sortais pour aller à l'école. Il a ouvert la fenêtre, il a mis la radio sur le bord de la fenêtre, il m'a dit écoute ça.
Ah oui.
Et c'était Hendrix, et je lui dis mais c'est qui? Bon voilà, donc là j'ai appris ça, et donc c'était Jimi Hendrix. Et alors, je peux pas dire que j'écoute Hendrix à longueur de temps, mais j'y reviens de temps en temps. Et quand j'y reviens, je me dis quand même qu'il avait d'abord c'est un super guitariste, et deux, il avait des belles chansons surtout. Ouais. Moi j'ai toujours été plus sensible au côté songwriting ou au côté chansons que qu'aux démonstrations guitaristiques, même si à l'époque quand même ça c'était quand même assez impressionnant. Et la chanson que j'ai programmée pour moi fait partie des 10 meilleures chansons que... Enfin, c'est mon top 10, quoi. Elle est dans mon top 10.
D'accord.
Parce que c'est une chanson magnifique, que tous les guitaristes ont essayé de jouer et que très peu ont... l'intro de ce morceau-là, tout le monde a essayé de la jouer peu savent la jouer vraiment, dont moi, je
sais pas. Stevie Ray Vaughan, il a bricolé un petit peu pas mal quand même. Ça,
oui, c'est, non mais c'est... J'allais dire, à part lui, voilà, chacun fait un peu sa méthode. Alors en même temps, c'est pas grave, hein. Chacun joue sa façon et c'est ça qui est important. Mais c'est une chanson magnifique qui est très courte aussi.
2 minutes 27.
Voilà. Et Clapton en a fait quand même avec Derek Clapton, une version Clapton aussi.
Très, très bien, oui.
Lui,
très
lui s'est complètement éloigné de l'original. Et donc c'est Little Wing.
Jimi Hendrix. We'll be right back. Voilà, monsieur Jimi Hendrix, et puis il y a l'ombre de Woodstock qui plane un petit peu autour de cette émission.
Et en fait, tu te dis, là, il y a un mec qui a chanté le morceau, si tu veux. Tu dis, là, ça se trouve, il jouait 10 minutes derrière.
Oui, ça se trouve, il est mort, le mec, surtout.
Oui. Juste après, tu crois.
Je suis pas sûr qu'il soit mort, le mec.
Ah ouais?
Si ça donne.
On est en 1900, combien? 67?
Non, mais regarde, c'est produit par qui?
C'est produit par qui? On va te dire.
Si c'est Eddie Kramer, je suis pas sûr qu'il soit mort.
Eddie Kramer est toujours là?
J'ai regardé il y a pas longtemps et je sais plus ce que j'ai. Je me demande si.
J'ai entendu sur Eddie Kramer.
Je sais pas. Ouais.
Je sais pas. On va regarder ça.
On va regarder ça.
Si quelqu'un sur Facebook peut nous donner la réponse. Bon voilà.
Bon maintenant on va écouter un artiste qui a longtemps partagé la scène avec un certain Eric Clapton. Je sais pas pourquoi j'en reviens à Eric Clapton.
Peut-être qu'il est pas dans la playlist. Il a partagé la scène avec Eric Clapton pendant un an et demi, tu vois, un truc comme ça.
Voilà, il y a eu une réunion du groupe Cream.
Alors on me confirme dans l'oreillette qu'Eddie Kramer est toujours vivant.
Et qu'il a 79.
Le bel âge. Il commence à devenir crédible en tant que bluesman.
Bon, on lui demandera à l'occasion pourquoi il a chanté le morceau qui fait plus que 2 minutes 27 au lieu de 18 minutes 42. Jack Bruce, c'est ça.
Jack Bruce.
Alors, pourquoi Jack Bruce?
Voilà, et pourquoi pas Jack Bruce?
Oui.
Jack Bruce, je trouve.
Le frère de Fred, on est d'accord.
c'est un artiste monumental, Jack Bruce. J'ai toujours trouvé que c'était un chanteur exceptionnel. Un compositeur exceptionnel, un bassiste exceptionnel, mais ça tout le monde le sait. Moi il m'a toujours scotché, j'ai toujours trouvé très inventif, original, surprenant. Et c'est vrai que, enfin moi quand je pense à un bassiste, pour moi le bassiste ultime c'est Jack Bruce.
Tu l'as vu?
Mais ce n'est pas que... Non, je l'ai pas vu sur scène. Non. J'ai pas eu cette chance.
Moi j'ai eu l'occasion, c'était il y a déjà quelques années, 2009.
Ouais.
Je m'en souviens toujours, franchement. C'était sur un super festival, à Notodden, en Norvège. Et voilà, il n'y a que dans les grands trucs comme ça qu'il est invité maintenant. Un garçon solide. Hein.
Ouais, c'est sûr. Et j'en parle souvent avec mon copain, ami, condisciple Thierry Thomas. Mmh. On parle souvent de Jack Bruce.
Thierry,
on parle
si t'as un nombre entre 0 et 50.
Et on parle souvent, bien sûr, de Jack Bruce dans Cream. Il a fait des milliers de choses, Jack Bruce. Mais sa carrière solo, elle est très, très, très recommandable. Et surtout, je trouve que... c'est un compositeur génial et j'ai compris aimer Jack Bruce quand il était dans BBM avec Ginger Baker et Gary Moore parce que je rejette pas du tout Gary Moore et je trouve qu'il a fait des choses qui sont extra, d'autres que j'aime moins, mais à trois ça fonctionnait également très très bien et ça révèle un chanteur extra, un compositeur extra. Alors là ça doit être son premier album solo qu'il a fait juste après Cream, je crois.
Nous sommes en 1969.
Voilà, et il a dû faire ça juste après la dissolution de Cream ou pendant, je sais pas exactement, et c'est une chanson que je trouve fantastique, une des plus belles chansons qui soit, je crois, qui s'appelle Theme from an Imaginary Western. Voilà, que Laurent connaît aussi, aimait beaucoup par Mountain.
Par Mountain, sur l'album de Woodstock d'ailleurs.
Et alors là, vous allez voir que c'est pour ceux qui, les quelques-uns qui connaissent pas ce morceau, que le bassiste du groupe de blues rock, il est capable de sortir des choses qui sont quand même chiadées.
On écoute ça. Jack Bruce. Effectivement, erreur de plage, on est d'accord, c'est pas la bonne plage. Ça, on est qu'en première heure, les enfants. Hein. Voici le titre demandé par Jean-Christophe. Theme from an Imaginary Western, Jack Bruce. Well,
C'était voilà, pas
on
beau,
est ensemble.
Ça.
Bah
c'était
oui.
Pas beau, ça.
Jack Bruce, c'est vrai que ça aurait été dommage de se tromper de titre.
Mais l'autre était bien aussi.
L'autre, c'était Never Tell Your Mother She's Out of Tune. Voilà. Hein, c'est toute une histoire, là encore. Pourquoi ce titre Songs for a Taylor? Et puis en plus, Taylor écrit T-A-I.
C'est un hommage à son père, je crois.
Ouais. Mm. Et donc Jack Bruce, voilà, juste après l'expérience Scream qu'il a partagé pendant très peu de temps. C'est vrai que c'est à l'époque qu'on changeait de groupe tous les trois semaines parce que...
Oui c'est ça, on faisait des groupes qui duraient deux ans et qu'on écoute encore 70 ans après,
ouais.
Donc tout va bien.
Oui, oui, et donc bah là, on en arrive presque à la fin de cette première... Allez, il nous reste deux minutes pour évoquer le prochain album que Laurent a sélectionné. Là on arrive sur des choses plus récentes,
oui.
Avec un artiste, à mon sens, hein, au niveau guitare, au niveau... inspiration qu'aurait pu être née dans les années 45 et jouer sur Woodstock, pourquoi
mais
pas.
Complètement, oui. Hein, oui. Et c'est un artiste que j'ai découvert sur la reformation de Lehman Brothers Band en 92, qui s'appelle Warren Haynes, qui donc a fait partie de Lehman pendant jusqu'à la fin, hein, et notamment avec Derek Trax, donc et aussi un petit genou qui est plutôt bon. Et c'est un artiste qu'on a vu en concert avec Jean-Christophe. À la traverse.
Oui, à la traverse.
2015.
Sur la promotion de cet album-là.
Oui, 2015.
Et où on a pris une claque, parce que c'était quand même assez impressionnant. Parce qu'il y avait Warren Haynes, mais il y avait ses musiciens aussi. Et je peux te dire qu'ils ne s'étaient pas entourés de branleurs. Hein,
donc, et ça jouait, ça chantait, il y avait des belles chansons. Enfin, c'était splendide.
Et ils pouvaient aller dans des trucs un petit peu plus. Enfin, assez complexes, hein, façon jam band. Bon, qui n'est pas forcément tout ce que j'aime, parce que des fois, c'est un peu long. Mais en même temps, ils te sortent une chanson de Dylan en 2 minutes 30 et c'était définitif quoi. Mmh. Donc j'ai choisi une chanson qui s'appelle Cold Tattoo, ouais. Qui est une magnifique chanson qui figure sur cet album qui est un très très bel album que je recommande chaleureusement à tout le monde. Voilà, quoi dire de plus.
Bah écoute, Warren Haynes, on va écouter ça en tout début de deuxième heure. Voilà. Hein, juste pour voilà, le temps de rappeler, un petit coup de générique, on est ensemble jusqu'à 15h. C'est le 666, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1144, avec Jean-Christophe Panico et Laurent Choubrac qui nous font partager leur coup de cœur. On écoutait Led Zeppelin, Kev Maud, Jagger's Band, Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Johnny Winter, Leon Russell, Jack Bruce, et puis il y en a encore plein d'autres qui vous attendent durant l'heure qui arrive. Warren Haynes dans quelques secondes. Chicago.